Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard et qui sera ravi de prendre tous vos messages. Je rappelle les coordonnées de la radio à cet effet, soit par courrier électronique courtoisie@rc.fr, soit par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Les brahmanes, dans l'hindouisme traditionnel, sont ceux qui possèdent la connaissance des textes sacrés, ceux qui peuvent devenir prêtres et diriger les rites. Ils forment la première des quatre grandes castes hindoues. Ce terme désigne aussi une classe de membres riches, instruits et élitistes de la société américaine, bostonienne plus particulièrement, du XIXe siècle, et par dérivé, cette classe très supérieure et exclusive de toute la côte est américaine. Mais le must, permettez-moi d'utiliser, chers auditeurs, cet anglicisme, puisque nous parlons des Américains, le must pour cette caste américaine surnommée les Brahmanes, eh bien, c'est que leurs ancêtres soient arrivés avec les pionniers du Mayflower. Les États-Unis, en effet, furent fondés sur des principes d'égalité et de démocratie. Et néanmoins, l'aristocratie traditionnelle occidentale sera remplacée par une nouvelle aristocratie, à l'exemple justement de ces brahmanes qui en constituent le fondement, et l'aristocratie de l'aristocratie, ceux qui descendent de ces fameux pionniers. Une illustration de ces dynasties, cette nouvelle aristocratie américaine qui remplace l'aristocratie traditionnelle issue de l'aristocratie britannique, eh bien, une illustration, c'est Alice Roosevelt, la fille très excentrique du président américain Theodore Roosevelt. Eh bien, sa fille Alice a épousé Nicholas Longworth en 1905. Elle était quand même fille d'un président américain. Eh bien, sa belle famille, donc les Longworth, furent très peu enthousiastes concernant ce mariage, car les Longworth, eux, descendaient de ces fameux pionniers du Mayflower, et cette union, c'était presque pour eux une mésalliance. Et c'est ainsi que naquirent ces grandes dynasties américaines, celles avant tout de la côte est du Massachusetts, et nombre d'entre elles, en effet, furent fondées sur cette ancienneté historique, puis sur la fortune. Et bientôt, en effet, nous allons voir la politique. Ainsi, la dynastie des Kennedy est plus flamboyante encore, celle des Roosevelt, dont nous venons, en effet, d'évoquer la fille de Théodore, Alice. Et s'intéresser à ces dynasties américaines, c'est plonger dans l'histoire de ce pays, des premiers arrivants du Mayflower jusqu'aux États-Unis moderne. Nous allons le faire ce soir en évoquant justement la dynastie des Roosevelt, représentée bien sûr par ces deux personnages hors normes, les plus fameux Roosevelt de l'histoire américaine. Il s'agit naturellement de Theodore et de Franklin, dont l'action, nous le verrons, marque pour toujours la politique américaine. Eh bien, un livre passionnant raconte l'histoire de cette dynastie, la dynastie des Roosevelt. Son titre, c'est « Les Roosevelt, une dynastie américaine ». C'est ce livre que publie l'historien spécialiste de l'histoire des États-Unis, George Ayache, et il le publie aux éditions Perrin. Et vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir George Ayache. George Ayache, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Alors, vous êtes par Zoom, malheureusement, mais nous remercions beaucoup parce que vous avez fait une mauvaise chute. Pardonnez-moi si j'explique cela aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et ça vous a empêché de nous rejoindre dans le studio, car vous n'habitez pas près tout près de Radio Courtoisie, mais nous apprécions que vous soyez avec nous par Zoom pour cette première émission, parce que nous réaliserons deux émissions concernant cette dynastie, la dynastie des Roosevelt. J'espère que vous allez mieux, en tout cas.
Oui, oui, je vous remercie. Ça m'a pris du plaisir d'être vraiment physiquement près dans votre studio, mais on va essayer de se débrouiller à distance.
Oh, on va le faire très bien, j'en suis persuadé, via Zoom. Hein. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien, parce que nous avons eu le plaisir de vous recevoir régulièrement pour vos livres d'histoire, dont beaucoup d'ailleurs sont consacrés à l'histoire américaine, mais pas que. Hein. Vous avez une vie professionnelle très riche, hein. Vous êtes écrivain, vous êtes historien, mais vous avez aussi été diplomate, et vous êtes toujours avocat, et vous êtes vraiment un spécialiste des relations internationales, et plus particulièrement avec les États-Unis. Vous avez écrit sur ces sujets d'ailleurs de nombreux ouvrages, et qui nous relient d'ailleurs avec l'histoire contemporaine, qui se déchaîne hein, actuellement. Et puis d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des, quand on lit hein, votre livre sur l'histoire des Roosevelt et dont c'est le Théodore, eh bien ça nous relie là aussi très directement avec les enjeux stratégiques hein, qui font l'objet de la politique américaine actuelle. Hein. On pense notamment à Panama. Alors je précise que vous avez le dernier livre pour lequel nous avions reçu, c'était Cuba sur la crise des missiles, ça chez Perrin. Nous avions reçu aussi pour votre livre, toujours chez Perrin, sur la première élection moderne de l'Amérique, 1960, c'est l'affrontement Nixon-Kennedy. Kennedy qu'on rencontre aussi naturellement dans votre livre. Vous avez écrit sur la chute de Nixon en 2020. Vous avez écrit sur Joe Kennedy. Alors là, on parle vraiment d'une dynastie, celle des Kennedy, avec Joe Kennedy, le pouvoir et la malédiction. Et puis un livre aussi fort intéressant, Les présidents des États-Unis, histoire et portrait, où vous, dans ce livre, vous résumez la vie de tous les présidents américains, jusqu'à Trump. Et puis aussi, rappelons que vous avez écrit aussi, c'est un livre pour lequel nous avions reçu, sur Moshe Dayan, héros de guerre et politicien maudit. Ça nous amène dans l'histoire d'Israël. Et c'est en 2021 que vous avez publié ce livre. Avant de rentrer dans cette histoire dynastique des Roosevelt, Georges Hayash, quelles sont les nouvelles dynasties? Parce que la dynastie des Roosevelt, c'est un peu... c'est en quelque sorte une histoire dynastique qui s'est terminée après la mort d'Eleanor Roosevelt, hein, qui a aussi une action importante après la mort de son mari. Est-ce que Trump, pour vous, c'est une nouvelle dynastie américaine? Non, on en est très loin.
On en est très loin, et je crois que même les Kennedy ne sont pas une vraie dynastie, c'est un clan extrêmement soudé, qui avait effectivement de la suite dans les idées entre les deux frères, et puis voir par la suite. Mais la dynastie de fait, qui est la seule véritable, c'est celle effectivement des Roosevelt. Des Roosevelt parce qu'il y a eu deux présidents d'abord, et pas n'importe quel. Et puis ensuite, c'était une suite logique par rapport à tout l'historique de cette famille qui a 300 ans d'existence aux États-Unis.
Mmh. Mais c'est une dynastie qui s'est éteinte, en quelque sorte.
Elle s'est éteinte parce qu'effectivement, une dynastie classique, royale, monarchique, c'est la succession logique, si vous voulez, de père en fils, quelle que soit la valeur des individus. Une dynastie politique moderne, telle que les Roosevelt, ça se fonde sur l'élection et le suffrage des électeurs. Or, s'il est vrai que Théodore puis Franklin ont pu avoir le suffrage des électeurs de leur temps, leurs enfants n'avaient pas cette fibre politique ou ce talent politique pour perpétuer un peu le nom de Roosevelt à la tête de l'État.
Alors, les Roosevelt, trois siècles d'histoire, avec bien sûr l'apogée de Théodore et Franklin, puis après le déclin. Une double question, Georges Hayash. Qu'est-ce que c'est que pour vous une dynastie américaine, Et quel est le secret de ces dynasties, le secret de leur longévité?
Voyez, comme il n'y en a eu qu'une, le secret de la longévité, c'était que, effectivement, nous retenons le terme de dynastie à propos de Roosevelt à partir du moment de son ascension politique. Or, c'est le stade terminal de leur ascension. Pendant 2 siècles, ils n'ont pas fait de politique quasiment. Ils se sont enrichis, ils ont été patriotes, militaires, avocats, journalistes, mais pas hommes politiques. C'est à partir de Théodore que ça commence à arriver. Et par la suite, ça c'est une fibre qui va les tenir. Donc, c'est un hasard, si vous voulez, si ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de plan prémédité pour que l'un succède à l'autre et que on crée une famille au pouvoir. Il se trouve qu'il y a eu 2 personnalités saillantes, Théodore d'abord, Franklin ensuite, qui se sont imposées par leur vertu, par leur capacité, leur personnalité. Mais dès lors que ces conditions n'étaient plus remplies, avec leurs successions respectives, eh bien, tout est tombé à l'eau.
Mais pour vous, les dynasties sont avant tout politiques. N'y a-t-il pas des dynasties qui soient industrielles ou
Ah oui,
culturelles,
tout à
que
fait.
sais-je?
Tout à fait. Les Rockefeller sont une dynastie tout à fait significative sur ce plan-là. Hein. Mais donc, ça peut très bien exister, en effet, pour le meilleur ou pour le pire, avec la loi du profit qui est le juge de paix pour la prolongation de la dynastie. Les données sont différentes. Dynastie culturelle, oui, encore qu'aux États-Unis, il n'y en a pas eu tellement. Hein. Et peut-être les Adams qui ont donné. Qui ont produit plusieurs intellectuels de très haut niveau, des historiens, des écrivains, romanciers, mais c'est à peu près tout.
Mais ces brahmanes que nous évoquions, ces brahmanes de la côte est, que nous évoquions en introduction, ce sont-elles les dynasties américaines?
Non, ce ne sont pas des
Ou
dynasties en fin de compte.
c'est différent, vous différenciez l'élite et les dynasties en quelque sorte.
Absolument. Une dynastie, c'est par rapport à une famille, si vous voulez. Hein.
Oui.
C'est une famille qui se perpétue ou qui ne se perpétue pas. Là, c'est l'élite. Le mot est très bien choisi. C'est une élite qui se forme spontanément à partir du Mayflower au XVIIe siècle. Et tous ceux qui vont s'en réclamer par la suite, et quelle que soit leur distance temporelle par rapport à cet événement du Mayflower, eh bien, ils vont appartenir à l'élite. Ils vont avoir le sentiment d'appartir à l'élite, d'où le terme de brahmane, qui s'attache à cette élite du nord-est américain. Alors que par la suite, on apprendra, ça c'est pour l'anecdote, si vous voulez, on apprendra au temps de la prohibition américaine, des historiens essaieront de montrer que l'abordage du Mayflower sur la côte américaine était dû au fait que simplement, pas pour des raisons religieuses, mais était dû au fait qu'il manquait de cargaison de bière. Et faisait escale à ce moment-là au large de Plymouth pour se
Pour se
ravitailler en
reposer en
bière.
bière.
Donc là, on est loin de...
Il y a aussi une grande famille américaine que l'on croise dans votre livre, hein, Les Roosevelt, une dynastie américaine, sont les Cabot Lodge.
Ah oui.
Les,
Là, ce sont des brahmanes pur sucre.
oui.
C'est le type même de la famille brahmane qui s'est enrichie, qui domine tout son environnement, qui bénéficie d'un respect, d'une révérence incroyable, mais jusqu'à ce Cabot Lodge qui sera battu par Kennedy aux élections sénatoriales
Oui.
en 1952, mais Kennedy va le réembaucher comme ambassadeur au Vietnam. Il va faire parler de lui par la suite, hein, Henry Cabot Lodge.
Oui, alors pour les Cabot Lodge, je peux bien comprendre hein, ce que c'est qu'une dynastie. Eux, ce sont des brahmanes, c'est une élite, mais ce n'est pas une dynastie.
Non, ce n'est pas une dynastie. Ils se sont succédés quand même. Il y a eu des Cabot Lodge. Le grand-père de ce Cabot Lodge dont je vous parlais avec Kennedy était quand même président du Sénat.
Oui, donc
Et
oui.
il faisait la loi au Sénat. Hein. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un des hommes les plus puissants de la vie parlementaire américaine.
Oui. Je parle de Cabot Lodge parce que j'ai écouté une émission récemment qui évoquait justement les Cabot Lodge et qui disait que, je sais pas, qui expliquait ce que vous nous racontez là sur les Cabot Lodge qui sont des brahmanes pur sucre, hein, qui remontent
Ah oui.
en effet au Mayflower. Mais vous avez un peu démythifié quand même hein, l'histoire du Mayflower. Avec votre
Oui,
histoire
non.
de bouteille de bière.
Alors, Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'était à l'époque de la prohibition, les histoires sur l'alcool faisaient florès. Mais
Oui.
en tout cas, c'était quelque chose qui voulait démystifier un peu ce mythe de l'élite américaine, quoi.
Alors pour revenir au Cabot Lodge, il paraît que chez les Cabot Lodge, les Cabot parlent au Lodge et les Lodge
Ouais.
parlent à Dieu. Vous connaissiez
Voilà, c'est ça. Ça montre bien la distance qu'il y a par rapport au commun des mortels. Et alors, Sir Henry Cabot Lodge, qui était président du Sénat, était un grand ami d'ailleurs de Theodore Roosevelt. Et c'est lui qui va prononcer, je crois, son éloge funèbre quand Théodore va décéder.
Nous avons un auditeur qui nous demande est-ce qu'il y a eu une dynastie Washington, hein, des descendants de George Washington, est-ce que c'est une. Est-ce qu'y a-t-il une dynastie? Est-ce que cette famille s'est éteinte ou est-il y a encore des descendants? Même question pour les Lincoln.
Ça, je ne sais pas.
Oui, on ne sait pas s'il y
Honnêtement,
a.
la généalogie, je ne sais pas, mais
Ouais.
en tout cas, il n'y a pas eu de descendance sur le plan politique, ça
Donc il n'y
c'est
a pas de
certain.
dynastie. Hein. Pour vous,
Certain.
la dynastie, c'est
Non,
vraiment voilà, une famille qui est aux manettes, hein, au poste
cela
de.
dit, il y a eu des présidents, il y a eu deux membres d'une même famille pour être président. Par exemple, les Harrison, il y a eu William Harrison au début du 19e siècle. Et à la fin, Benjamin Harrison, qui était son petit-fils, je crois. Mais bon, par hasard, si vous voulez, il n'y avait pas le sens dynastique ou le sens de revanche par rapport à ça, puisque William Harrison restait très peu de temps au pouvoir.
Mais
Et d'ailleurs.
oui, ce côté brahmane élitiste, ça contredit un peu quand même le mythe américain fondé sur l'égalité des chances, la méritocratie,
Ah ben
le
oui.
succès qui est dû à ses propres efforts, puisqu'on voit là les Longworth, hein, qui font grise mine parce que leur fils va épouser Alice, la fille du président, et que bah, ils ne descendent pas des tout premiers
Exactement.
pionniers. C'est contradictoire avec ce rêve américain.
Ah oui, mais c'est plein de contradictions. L'esclavagisme aussi était
Oui, c'est
contradictoire.
vrai,
Hein. Le
oui.
massacre des Indo-Américains était aussi contradictoire. Hein. Donc,
Oui,
effectivement, un pays n'est ni blanc ni noir, si vous voulez, sans faire de mauvais mots.
Oui.
Mais il y a des bonnes choses et des très mauvaises choses. Et il est évident que l'Amérique s'est fondée effectivement sur la violence, sur la conquête. Et effectivement, il y a eu des résultats magnifiques, si vous voulez, mais ces choses longtemps occultées réapparaissent maintenant, si vous voulez. Hein, qui montrent bien qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont pas pu évacuer éternellement. L'esclavagisme, on a avec une guerre civile, et puis ensuite les Indo-Américains, malgré tous les efforts du cinéma pour glorifier la conquête de l'Ouest, bon, il est évident qu'il y a eu des dérapages par rapport aux Autochtones.
Et un auditeur qui nous demande, Théodore et Franklin sont-ils de la même famille? Eh bien, c'est ce que nous allons
Oui.
voir ce soir avec vous, en
Oui,
votre compagnie.
à double titre.
Hein, d'où le titre exactement, Les Roosevelt, une dynastie américaine. Et, allez, bien sûr, la réponse elle est affirmative, puisqu'on parle en effet d'une dynastie. Mais pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire des Roosevelt, hein, Georges Ayache?
Je vais vous faire une confession, mais que ça ne soit pas répété surtout.
On va pas le dire, oui.
Au tout départ, je voulais proposer à mon éditeur une biographie de Theodore Roosevelt, qui est mon président préféré, je dois dire.
Oui.
J'ai un faible pour Theodore, qui est un homme exceptionnel. Et puis, il m'a orienté vers l'histoire de la famille. Et j'ai hésité parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Une biographie sur une personne unique et puis l'histoire d'une famille sur 3 siècles en plus de surcroît, ça n'est pas du tout évident. Puis je me suis aperçu en cours de route qu'il avait probablement raison parce que c'est une histoire exceptionnelle que cette dynastie. Et donc j'ai été passionné en l'écrivant, si vous voulez, mais c'est le hasard en fin de compte qui a fait que je me suis branché un peu sur cette famille au sens global.
Alors nous découvrons avec vous pourquoi Theodore Roosevelt est votre président préféré, puisque vous les avez tous étudiés, hein, vous avez publié aussi un livre, hein, sur tous ces présidents
Oui.
américains dans la collection Tempus, hein, je crois, de
Oui,
Perrin.
tout
Donc
à fait.
vous nous expliquerez en effet en quoi vous êtes impressionné par Theodore Roosevelt. Theodore et Franklin Roosevelt, et on continue à marquer l'histoire des États-Unis. On en voit encore
Non.
la conséquence
Non.
pour vous?
Non. Non.
Non.
Théodore a été Pas oublié, parce que son image reste au cœur des Américains comme un président exceptionnel, à maints égards. Franklin, il a fait 4 mandats, hein, il ne sera jamais égalé sur ce plan-là, c'est évident. Il a marqué son époque, en plus, avec son handicap physique, son courage dans la façon d'assumer ses fonctions. Mais après eux, il y a eu pendant quelques années, quelques brèves années, l'héritage à assumer, la référence au grand président. Mais je crois que c'est à partir de Kennedy précisément que tout s'est effondré, qu'on n'en a plus parlé. Et que la référence pour les démocrates, ça a été Kennedy et non plus Roosevelt. Donc c'est curieux, mais des présidents qui ont marqué la première partie du XXe siècle, en fin de compte, le premier XXe siècle, c'était le siècle des Roosevelt, en quelque sorte. Hein. Eh bien, tout ça s'est tombé. Parce que les temps ont changé. Tout simplement, les générations ont changé également. Hein, une nouvelle génération des années 60, 50, c'était quelque chose de tout à fait particulier aux États-Unis. C'est-à-dire, on balançait par-dessus bord tout ce qui s'était passé, y compris la guerre de sécession, y compris tout le reste. C'était une sorte de véritable révolution culturelle et mentale. En plus, elle était incarnée par un homme qui avait un charisme hors du commun, qui était John Kennedy. À partir de là, Roosevelt était relégué à l'histoire véritable
Oui.
des États-Unis.
Mais Trump ne fait pas référence à Theodore Roosevelt.
Non,
Non. Pourtant, Panama,
c'est
c'est
curieux.
lui. Panama, c'est Theodore
Oui,
Roosevelt. Hein.
Panama et Cuba,
Et la conquête
Cuba
de Cuba, ce
également.
qui devrait aussi lui plaire.
La conquête du Cuba, c'était quelque chose qui aurait
Oui.
dû lui plaire, en effet. C'était tout à fait dans son style, enfin, le style de l'action, si vous voulez,
Oui.
parce que le style intellectuel
Ah
des
non,
deux hommes, c'est pas exactement la même
ce ne
chose,
sont
hein.
pas les mêmes personnalités, à l'évidence.
Non, je crois
En effet.
que Theodore Roosevelt était l'homme probablement le plus cultivé de tous les présidents américains, peut-être à l'exception de Jefferson, Thomas Jefferson, qui était un homme encyclopédique, un homme de la Renaissance. Hein. Tous les deux étaient des hommes de la Renaissance. Ils s'intéressaient à tout. Ils lisaient des lecteurs infatigables, etc. Et vraiment, c'était des personnalités qui tranchaient sur leurs contemporains. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de présidents. Hein.
Mais comment avez-vous écrit ce livre? C'était une histoire très longue, qui est foisonnante, avec beaucoup de personnalités différentes. Il y a des clans différents. Hein. Il y a le clan Oyster, il y a le clan Hyde Park. Comment avez-vous procédé?
C'est-à-dire, comme toujours, il y a la littérature ouverte aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de biographies qui ont été faites sur non seulement sur les deux principaux personnages, mais également sur les personnages collatéraux. Alice, la fille de Théodore, Éléonore, la fille de Franklin. La femme de Franklin, etc. Donc, il y a eu beaucoup de personnages collatéraux qui ont eu leur biographie. Et puis, j'ai essayé de cerner les personnages et de voir quels étaient les plus intéressants. Et d'ailleurs, rétrospectivement, si j'avais dû faire une biographie, malheureusement, elle était déjà faite aux États-Unis et bien faite. Hein, donc, je ne veux pas enfourcher les brisés de ceux qui ont déjà exploré le sujet à fond. C'est une biographie d'Alice. Alice est une personnalité encore plus pétillante que Théodore, que son père Théodore.
Oui, c'est une. Elle a un côté en effet excentrique, mais à part être la fille de son père, alors c'est simplement vous décrivez une personnalité attachante, mais elle n'a pas eu de rôle politique important à vous lire.
Non, mais
Elle n'a
c'est.
pas occupé de responsabilité.
Non, parce que elle est, malgré qu'elle ait été, comme on dirait vulgairement, à fort en gueule, elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle était vraiment presque venimeuse, hein, dans sa manière de critiquer les gens, elle était très timide en fin de compte. Et donc, elle ne se voyait pas faire une carrière politique, d'autant plus que c'est une femme, et qu'à son époque, les
Oui.
femmes en politique, hein, bon. Donc, elle s'est contentée d'être la femme la mieux informée de Washington, et ce, pendant plusieurs décennies. Si bien qu'au tout début, on l'a surnommée Princesse Alice parce que c'était la fille de son père. Mais à la fin de sa vie, on l'a surnommée le second monument de Washington. C'est dire à quel point elle était centrale dans la vie politique de Washington. Tout le monde faisait référence à elle, tout le monde l'invitait. jusqu'à 90 ans passés. Hein. C'est vraiment une personne qui, par son humour, par sa culture également, c'est une personne extrêmement cultivée, faisait la joie des soirées mondaines à Washington.
C'est vrai qu'elle a eu une longue vie. Et donc,
Ah, une très longue vie, une très
oui.
longue vie, et elle a fréquenté des tas de gens, elle a connu des tas de gens, et puis c'était la femme la mieux informée de Washington. Pourquoi? Parce que à l'époque, elle s'était mariée donc avec ce Longworth, qui a fini par devenir speaker de la Chambre des représentants, c'est-à-dire président de la Chambre des représentants, et elle avait pour amant le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères. Donc c'était la femme qui savait tout sur tout le monde.
Et ce qui nous surprend aussi, d'ailleurs, en nous allant rentrer dans cette histoire, parce que je trouve que l'un des intérêts aussi de votre livre, et notamment de la première partie, c'est une histoire américaine. Et les Roosevelt, ça commence dans un champ de roses, hein, aux Pays-Bas, en 1626. Vous allez bien sûr nous raconter tout ça. Et c'est l'histoire aussi du développement de ces colonies américaines et du développement de New York et de Manhattan. Ça, c'est une partie très importante, très intéressante de votre livre. Et on voit que ceux qui se sont à l'origine du développement de Manhattan sont avant tout ce sont des Wallons d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux.
Ah oui, ce
Des
sont des
Wallons des
Wallons,
Pays-Bas. Vous allez bien entendu
des...
raconter tout ça. Mais ce que je voulais dire, ce qui est aussi étonnant dans votre livre, lorsque vous décrivez toute cette dynastie, leurs enfants, vous avez évoqué la fille de Théodore, Alice. Et la couverture de votre livre, donc les Roosevelt, une dynastie américaine, c'est une très belle photo. C'est la photo donc de Franklin Roosevelt avec Éléonore, entourée de nombre de leurs enfants et petits-enfants. C'est une très belle
Tout à
photo de
fait.
famille. Mais
C'est la famille de la branche Franklin. Hein,
c'est ça, c'est ça.
ceux de Théodore sont à part.
Mais
C'est pour ça que c'est très difficile de trouver une photo qui symbolise tout le livre, parce qu'il n'y a pas de photo de groupe de toute la famille réunie.
c'est ça,
Ça,
c'est
ça...
des Franklin. Et puis on voit effectivement, ce sont de beaux enfants, de beaux petits-enfants. Il y a des charmantes jeunes filles. Il y a un jeune homme en uniforme, etc. On a l'impression d'une très belle famille. Mais quand vous en racontez l'histoire en détail, c'est différent. C'est
Une
surprenant,
famille.
c'est différent. Il y a
Ouais.
beaucoup de névrosés, il y a des malades, il y a des corrompus, il y a vraiment
Ouais.
de tout, malgré l'apparence qui paraît très belle. Ça, c'est frappant, ça m'a frappé
Absolument.
dans votre livre.
Absolument, il y a toujours l'envers du décor, et plus les
Oui.
familles sont élargies, plus les familles s'étendent sur plusieurs générations, et plus on a des chances de trouver des personnages insolites, marginaux, atypiques. Hein. C'est clair.
Oui, comme nous avons.
Ce n'est pas les Kennedy qui démentiront
Oui.
ce. Ah bon. Donc c'est clair.
Nous allons bien sûr parcourir cette histoire avec vous. Un auditeur qui nous dit on a beaucoup critiqué dans une certaine presse la réputation sulfureuse d'Eleanor Roosevelt, donc l'épouse de Franklin. Avait-elle une réelle influence sur son mari? Le président Roosevelt, je vous propose de garder cette question. Si vous le voulez bien, lorsque nous allons probablement la deuxième émission que nous réaliserons avec vous, nous répondrons, vous répondrez, bien entendu, c'est un aspect que vous développez hein, naturellement dans votre livre. Et je vous propose, si vous voulez bien, de commencer par le commencement, Georges Hayash, c'est-à-dire, vous avez intitulé le début de votre histoire entre Oyster Bay et Hyde Park, ce sont les deux branches d'ailleurs des Roosevelt, et vous commencez par la naissance, donc en 1626, en Zélande, aux Pays-Bas, de Claes Martensen van Rosenvelt. Et vous nous dites, Rosenvelt, c'est Roosevelt, bien sûr, ça veut dire champ de rose en néerlandais.
Tout à fait. Et on ne sait pas d'ailleurs si le patronyme est le patronyme réel de la famille, mais il se peut que ce soit l'emprunt de la famille seigneuriale qui avait la domination sur le secteur où se trouvait cette famille-là, et qui a emprunté par la suite le nom de Rosenwelt. Alors Rosenwelt, effectivement, c'est un nom qui se voulait flamand, mais il est pas sûr que l'origine ait été ni wallonne, ni au sens large des Pays-Bas. Certains pensent que l'origine pouvait être espagnole, que les Roosevelt pouvaient s'appeler Campo Rosso venant d'Espagne. Il y a eu beaucoup d'Espagnols exilés dans les provinces, dans ce qu'elle est devenue les Provinces Unies. Et donc, il y a eu beaucoup de brassages à la fois social et religieux qui ont fait que les Roosevelt ça a été pas. Mais toujours est-il qu'il est né dans une famille qui n'était ni riche ni pauvre, qui subvenait à ses besoins, qui n'était pas spécialement dans le besoin, et qui est parti, et lui est parti courir l'aventure dans les Amériques, non pas parce qu'il était persécuté spécialement, alors que beaucoup sont partis, le Mayflower est là pour le prouver, à la suite des persécutions religieuses. Lui, c'est pas pour ça, mais peut-être la volonté, le désir de connaître d'autres expériences, de se prouver à lui-même qu'il pouvait faire autre chose que rester dans son coin, au pied de son moulin, à essayer de voir les générations se succéder. Et c'est pour ça qu'il est parti en Amérique, et il va pas vivre très longtemps d'ailleurs, puisque il va mourir assez rapidement. On ne vivait pas vieux à l'époque, hein. Et il a eu son fils à 32 ans, il est mort à 33, donc, c'était quelque chose de banal à cette époque. Donc,
Oui, mais c'est quand même une
le nom
histoire
a changé.
intéressante.
Oui.
Pardonnez-moi, c'est quand même une histoire
Je vous
intéressante parce que vous dites que Claes débarque à la Nouvelle-Amsterdam, donc colonie néerlandaise à
en
l'époque.
prie. Oui.
Et là, il achète une ferme de 20 hectares sur l'île de Manhattan. Et
Absolument.
ça, c'est
N'imagine
intéressant
pas
parce
ce
que vous nous faites un petit focus hein, sur l'histoire justement de Manhattan. Et avec le rôle, je demande des Wallons particulièrement.
Ah oui, on ne pouvait pas s'imaginer ce que pouvait être Manhattan jusqu'en plein 19e siècle, hein, du reste. Hein. On trouve des fermes encore dans la deuxième moitié du 19e siècle à Manhattan. Hein.
Oui.
C'est incroyable. Mais à Brooklyn notamment aussi, mais, qui est de l'autre côté de l'East River. Mais toujours est-il qu'effectivement, les Wallons étaient très, très, très implantés là-bas. Il y a des noms à consonance néerlandaise qui vont perdurer. Hein. Par exemple, les Peter Stuyvesant, qui est connu pour avoir donné son nom à une marque de cigarettes par la suite, c'était un des gouverneurs de Manhattan à cette époque-là. Et d'ailleurs, on lui impute la construction d'un mur qui était destiné à protéger la colonie de tous les envahisseurs extérieurs, qu'ils soient anglais ou indiens. Et donc ce mur, cette rue, va devenir une rue, la rue du mur, donc Wall Street. Donc c'est une des significations qu'on peut donner, mais la toponymie est parfois trompeuse, parce que certains disent par la suite que Wall Street, c'est la rue des Wallons. Hein, là aussi, ça peut très bien se rapporter à ça.
Oui, le Wall de Wallon, c'est ça que
Voilà,
vous
le Wall de
voulez
Wallon.
nous
Voilà.
expliquer. Ouais, c'est particulièrement intéressant. Cette naissance de ce qui sera New York est en effet surprenante parce que New York, qui n'est pas New York en effet à cette époque, est d'abord néerlandaise. Dans quelles circonstances va-t-elle devenir britannique?
Parce que les Britanniques vont essayer de s'implanter dans toute la région et de coloniser véritablement cette partie de l'Amérique du Nord qui est très porteuse. Donc, et en plus, New York bénéficie d'un site géographique tout à fait exceptionnel. La baie de New York et les ramifications qu'il peut y avoir. À l'époque, Manhattan est une île qui va être reliée par la suite au continent. Donc, c'est maintenant une presqu'île. À l'époque, c'était une île, mais qui était parfaitement abrité. Donc pour les navires, surtout dans cette partie de l'Amérique du Nord où les tempêtes quand même sont sévères, quelquefois, c'est un havre de paix, hein, avec des îles pleines, l'île qui a donné lieu à la Statue de la Liberté, Ellis Island, l'île des Gouverneurs. Donc il y a beaucoup de sites, si vous voulez, à l'intérieur de ce grand panorama qui va devenir New York, qui est très accueillant, qui est très porteur, avec deux fleuves qui longe Manhattan, donc l'un à l'est, d'où le nom de East River, et l'autre qui va être l'Hudson, qui monte profondément à l'intérieur du territoire. Donc à l'époque, des communications qui se faisaient par voie fluviale, c'était très important.
Alors, vous avez évoqué Claes van Roosevelt, hein, qui s'installe donc à la Nouvelle-Amsterdam, qui achète une ferme de 20 hectares sur l'île de Manhattan, hein, qui était avant la propriété des Indiens Manat, d'où
Et qui
effectivement. Hein,
est propriété qui est à peu près, si on peut transposer dans la topographie d'aujourd'hui, à peu près où se trouve l'Italie. C'est-à-dire au centre de Manhattan, il était bien placé en plus.
Je vous propose de poursuivre l'histoire de cette dynastie à partir de Claes. Quelle est la suite de l'histoire des Roosevelt?
Alors, Claes va avoir un fils, Nicolas, donc, Nicolas qui va faire prospérer également par le commerce, le dépôt. Et Nicolas lui-même va avoir deux enfants, deux fils, hein, l'un qui va s'appeler Jacobus, et l'autre Johann. Et c'est à partir de là que la famille va se scinder en deux, sans pour autant qu'il y ait eu d'incidents familial, sans pour autant qu'il y ait eu des dissentiments, des querelles, que sais-je, mais la vie va les éloigner. Et la famille, le côté de Johannes va fonder la famille d'Oyster Bay, et l'autre, celle de Jacobus, va être du côté de Hyde Park. Alors, Oyster Bay, c'est sur l'île de Long Island, au sud donc de Manhattan, hein, New York, donc. Et c'est là où cette famille va s'implanter, acheter des propriétés et devenir chez elle pratiquement. La famille de Hyde Park, la branche de Hyde Park, c'est rien à voir évidemment avec le Hyde Park londonien. C'est un endroit qui est situé à une quarantaine de kilomètres au nord de New York par l'Hudson. C'est au bord de l'Hudson, d'ailleurs, que cette branche va s'implanter et va prospérer à sa manière. Donc, ces deux branches de famille, dès lors, vont évoluer en parallèle jusqu'à effectivement la jonction qui va avoir lieu avec Franklin et Eleanor Roosevelt.
Voilà, vous nous
Mais
expliquerez
j'ai
en
vraiment.
effet les liens. Donc ces deux branches, ce sont des cousins
Ce sont des cousins. Ce sont des
éloignés.
cousins qui se voient. Ils se voient une fois par an, pratiquement une grande réception, etc., mais distants. Distants, mais encore, je le répète, pas forcément hostiles, hein, les uns par rapport aux autres, simplement ils sont éloignés.
Mais
Et
ça
à
reste,
l'époque,
ah oui, ça reste des
même
Roosevelt.
type. Pardon?
Il reste des Roosevelt et il cultive
Absolument, absolument. Même si maintenant l'éloignement géographique est dérisoire, hein, ça, un vol d'oiseau, c'est rien du tout en termes de communication. À l'époque, ils étaient éloignés, si vous voulez. Ils n'avaient aucune chance de se rencontrer si ce n'était pas du fait de leur volonté.
Alors, les deux grands, bien sûr, de votre dynastie, qui sont Théodore et Franklin. Théodore, c'est Oyster Bay, et Franklin, c'est
Oui.
Hyde Park, c'est ça.
Absolument.
Je ne me trompe pas,
Absolument.
hein?
Non, non,
D'accord.
ne vous trompez pas.
Ce que je vous propose, c'est de poursuivre, en effet, l'histoire de cette dynastie en s'intéressant tout d'abord à ceux de Oyster Bay, et nous allons évoquer Théodore durant cette première émission, et puis lors de la deuxième émission, eh bien, puisqu'elle sera plus destinée à Franklin, dans ce cas-là, on pourra reprendre, si vous voulez bien, l'étude de cette
Oui.
dynastie, Hyde Park, Franklin, et la manière dont les deux familles se réunissent.
Tout à fait,
En
tout à
quelque
fait.
sorte, cela vous convient que nous
Ah, mais
procédions?
c'est une bonne chose. C'est effectivement une manière de procéder.
Alors, je vous propose de continuer l'étude de cette première branche dynastique, celle de Oyster Bay, celle qui va aboutir à Théodore et notamment après à la fameuse Alice, l'excentrique Alice. Alors nous vous écoutons pour la suite de cette histoire. Vous aviez évoqué Jacobus. Hein, Jacobus est au
Alors,
19e siècle. Hein, lui fait une excellente.
non, non,
Non.
non, Jacobus, ça n'arrête pas.
Ah,
C'est la
pardon,
branche de
c'est
Hyde
Hyde
Park.
Park. Oui, ben, je commence mal
C'est
alors.
Johannes. C'est Johannes. Oui.
Je
Non,
vous,
non, on peut
je...
s'y perdre. On peut...
Bon,
On peut s'y perdre très volontiers, il n'y a pas de problème.
Non, mais
Non, c'est généralement très bien.
allons sur Oyster Bay dans ce cas-là. Je vous laisse reprendre la main sur Oyster Bay, cette dynastie,
Voilà.
jusqu'à Théodore.
Donc, le successeur de Nicolas, donc c'est Johannes, qui vit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, pratiquement, qui donne lui-même naissance à un fils, Jacobus. Ils sont pas très originaux au niveau des prénoms, hein, ça c'est
Oui.
clair. Donc, un autre Jacobus, qui est en plein XVIIIe siècle lui aussi, qui va vivre. Et on arrive, bon, de fil en aiguille, au XIXe siècle, avec l'homme qui va être clé dans cette histoire, c'est Cornelius Van Schaack Roosevelt. Alors, il faut savoir que les Van Schaack, c'est une des familles les plus riches d'Amérique, qui est
Oui.
dans l'industrie, et donc qui a déjà pignon sur rue. Hein. Et le père de ce Cornelius, James Jacobus, a eu le bon goût de se marier avec une descendante, une héritière de la famille Van Schaack, Maria Hélène.
Oui.
Donc, le rejeton Cornelius, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, c'est clair. Mais il ne va pas se contenter d'hériter. Par son savoir-faire et son intelligence, il va non seulement faire prospérer l'industrie du verre, hein, puisque c'est la spécialité de la famille, vers la banque et vers toutes sortes d'activités financières. Et c'est à partir de là que l'essor financier de la branche d'Oyster Bay va se matérialiser. Et ça va être décisif, si vous voulez. Cornelius vit de 1794 à 1871, donc il meurt en plein 19e siècle. Quand il meurt, il est un homme extrêmement riche, un des cinq hommes les plus riches de New York. Hein. Ça
Ah oui.
n'est pas rien. Hein. Quand il meurt, le New York Times fait une nécrologie spéciale le concernant. Plein d'éloges à son égard, des éloges mérités d'ailleurs, parce que c'est un homme, semble-t-il, assez remarquable à sa manière. Et c'est lui qui va donner naissance au père de Théodore, qui va s'appeler Théodore aussi, et Théodore Senior. Théodore Senior, donc, va être le fils préféré de Cornelius. Lui va vivre, Théodore, de 1831 à 1878. Il ne vivra pas très, 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 très vieux. Et donc, Théodore, va donner naissance à Théodore Junior, qui est le vrai Théodore, le futur président des États-Unis. Alors, il n'est pas seul dans la descendance, puisqu'il y a des frères et des sœurs, Théodore. Il a Anna, qu'on surnomme Bamille d'ailleurs, qui est le pilier de la famille. Hein, du reste, la petite Anna, qui est fragile, qui a une malformation du dos, mais justement en raison de ses souffrances, elle va avoir le respect de toute la fratrie et elle va tenir la maison en quelque sorte. Et il a un autre frère qui s'appelle Elliot, qui est beaucoup plus jeune que lui, et une sœur qui s'appelle Corinne. Donc, voilà un peu comment le personnage est campé. Alors, Théodore, le senior, le père du président,
Oui.
lui va est un homme qui va pas être aussi performant en affaires que Cornelius, mais il va se contenter de gérer la famille dans un sens humaniste, si vous voulez. C'est un homme de lettres, c'est un homme de bien, c'est un homme, un philanthrope d'ailleurs. C'est un des fondateurs d'ailleurs du musée d'art moderne de New York. C'est un des grands actionnaires et fondateurs et philanthropes du Carnegie Hall. Donc c'est vraiment un homme qui est versé dans la culture, les arts, et un aristocrate de la culture en quelque sorte. Ça, c'est un phénomène par exemple que n'ont pas les Kennedy. Ça, on ne trouvera pas de personnages de ce genre dans la famille. Hein. Et là, Théodore, qui est adoré par son fils d'ailleurs, inaugure un personnage dans cette famille richissime, un personnage de respectabilité, d'aristocratie, en quelque sorte culturelle et intellectuelle. Et donc, beaucoup d'influence sur son fils, qui fait Harvard, et puis qui abandonne assez rapidement, puisqu'en cours de scolarité, son père meurt, et il est tellement bouleversé qu'il arrête tout. Il pense reprendre des études de médecine, mais ça marche pas. Donc, il trouve pas encore sa voie jusqu'à ce qu'il fasse du droit, le droit qu'il déteste d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout sa tasse de thé. Mais c'est après qu'il va trouver sa voie par la politique, quoi, assez rapidement. Non, non.
Il
Non,
fait...
sans s'être marié au départ.
Alors on arrive à un moment important donc de la vie de Théodore. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'homme politique dans la dynastie.
Non, non. Il y a eu au tout début de la famille, il y
Oui.
a eu un élu, je crois que c'est Nicolas, qui se fait élire, et puis il a été destitué, puis il s'est fait réélire de nouveau, mais c'était à un niveau local. C'est sans importance. C'est pas ça qui va inspirer les grands présidents, non, c'est sûr.
Nous sommes à peu près en 1880, hein, c'est
Voilà.
lorsque Théodore fait ses études de droit à
Voilà, il fait des
l'université
études de
de
droit.
Cologne. On est en 1880 à peu près, hein?
Oui, ça
C'est ça.
n'inspire pas. Ça inspire tellement peu d'ailleurs que il en profite pour faire une thèse d'histoire. Et il fait une histoire, une thèse sur la marine à l'époque de Napoléon, en 1812. Et donc, une histoire qu'il va chercher dans les archives. Il fait un travail d'historien, hein, et vraiment, c'est un homme qui est très, 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 très rigoureux sur ce plan-là. Et il va être très, très porté sur la marine, sur la navy. Et là, il va inaugurer une tradition, puisque beaucoup de Roosevelt, y compris dans la branche de Franklin, vont être portés sur la navy également. Et la navy, ça va être la chose de Franklin Roosevelt par la suite, hein. On va le
Oui,
reprocher d'ailleurs, hein.
en effet,
C'est
vous le décrivez parfaitement dans votre livre, hein, Georges Ayache, hein, le double intérêt de Théodore et de Franklin pour la marine américaine sera un
Ah,
rôle
la marine,
important d'ailleurs. Hein,
c'est pour donner une note très, très, très précise là-dessus, l'inventeur, enfin le promoteur des super cuirassés que les Anglais avaient déjà en Amérique, c'est Théodore,
Oui.
quand il va devenir secrétaire à la
Oui.
marine.
Alors nous en...
Le
Oui.
fondateur de la base de Pearl Harbor, c'est
C'est
Théodore.
Théodore aussi. Alors nous en parler, effectivement, après une petite pause. Hein, nous avons un message de la radio à écouter, une pause musicale dont je vais vous parler, Georges Layache. Nous allons effectivement évoquer plus précisément la vie de Théodore. Encore une question avant cette pause.
Oui.
Vous avez parlé de son père qui est un modèle, hein, pour lui. Le père de
Oui,
Théodore, hein,
absolument. Absolument.
et sa mère, vous voulez en, il y a quelque
Moi.
chose à mentionner de particulier ou sinon on passe, hein,
Non, 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 il n'y a rien de
rien de
particulier
particulier à
avec
dire. La
c'est.
question que je souhaitais vous poser aussi, c'est sûr, vous dites, bon, il fait des études de droit, il n'aime pas le droit, ça ne l'épanouit pas, ce qu'il aime, c'est l'histoire, en quelque sorte, avec un tropisme maritime, et pour la marine de guerre. De quoi vit-il lorsqu'il termine ses études?
Alors,
David.
oui, une chose sur sa mère quand même.
Oui.
Sa mère, qui s'appelait Martha Bullock, était une beauté du Sud. Il a été chercher sa femme dans le Sud des États-Unis, Théodore, alors que c'est pas du tout son. Il est tombé amoureux d'elle, il a eu le coup de foudre, si vous voulez. Et elle vivait elle faisait partie de l'aristocratie du Sud également. Et donc, elle vivait un peu sur le mode, pour ceux qui ont vu Autant n'importe le vent, exactement sur le mode de construction monumentale
Oui.
qu'avaient les riches personnes du Sud. Et d'ailleurs, on dira par la suite que la romancière Margaret Mitchell, qui va écrire Gone with the Wind, justement, le roman, s'est inspirée de la famille de Martha
Ah oui.
pour écrire son livre sur les paysages, sur les demeures, sur les bâtisses, etc. Donc,
Oui.
alors sur le plan du mode de vie, pas
Oui.
d'inquiétude. Hein, il était multimillionnaire, le père,
Oui, c'est la
Théodore.
fortune familiale,
Donc,
quoi.
il pouvait très bien rester sans travailler toute sa vie, sans
Bien.
problème. Sans problème, donc ça n'a jamais été une question pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la politique, mais pas simplement parce que c'est le fils de son père, qui était déjà un républicain très, très, très convaincu. Hein. Le père donnait beaucoup d'argent au Parti républicain, le Parti de Lincoln, etc., etc. Mais parce qu'il avait des convictions assez rapidement. Théodore avait le sens de l'État, le sens de l'action publique qui était très développé chez lui. Et pourquoi? Parce que son père l'avait incité à lire. C'était un lecteur infatigable. Et comme il était très fragile de santé, Théodore, il était asthmatique, etc., il était préservé. Et donc, il avait un précepteur, mais il pouvait puiser dans la bibliothèque de son père, qui était immense. Et donc, il s'est instruit par lui-même. C'était un autodidacte, mais qui a fini par acquérir une connaissance livresque et une érudition tout à fait phénoménale pour son temps. Et il s'est intéressé à des sujets totalement divers, ce qui allait devenir par la suite l'écologie, l'entomologie également. Il empaillait les animaux, ce qui faisait fuir d'ailleurs tous les serviteurs de la maison qui étaient effrayés par ces animaux bizarres qui ornaient les coins de la maison. Et donc, il faisait des expositions sur les insectes à l'âge de 7 ans. Il écrivait dans des revues scientifiques à l'âge de 8 ans. Donc, c'était un homme qui s'intéressait à tout. Il était ouvert à tout, il était d'une curiosité inépuisable. Et c'est pour ça que l'homme était exceptionnel. Et quand il s'est lancé en politique, c'était évidemment pas pour des raisons mesquines ou médiocres, mais parce qu'il avait la volonté de servir et parce qu'il avait une vision de son pays qui était déjà très, très, très développée.
Alors, Théodore est républicain, nous verrons que Franklin
Oui.
est démocrate.
Oui.
Pourquoi républicain? C'est parce que c'est une tradition familiale pour ceux d'Oyster Bay?
Parce que le Parti républicain, c'est le parti de Lincoln. Et le parti de Lincoln, c'est le parti qui a des valeurs, qui était vraiment le parti des gens de bien à l'époque, hein.
Oui.
Ça, c'était quelque chose de tout à fait. Franklin, par la suite, bon, sans déflorer ce qu'on pourra dire par la suite à son sujet, mais Franklin a suivi le Parti démocrate par tradition familiale, parce que son père était démocrate.
Était démocrate,
Autrement,
oui.
il avait une telle admiration pour son cousin Théodore qu'il aurait pu devenir républicain sans problème.
Oui.
Voilà.
Je vous propose que nous fassions une petite pause. Donc, message de la radio et suivi d'une pause musicale. Georgia,
Évidemment.
surtout, vous restez bien en ligne. Alors, la pause musicale, nous la devenons à Stéphane. Nous l'en remercions. Il a trouvé une pause musicale particulière. Peut-être souhaiterez-vous, Georgia, la commenter. Son titre, c'est How Firm a Foundation. C'est l'un des hymnes. Ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ah,
Non,
vous...
c'est un choix excellent. Hein.
Ben oui, on félicite Stéphane et on le remercie parce que
Ah
c'est un hymne, il semble que c'est l'un des hymnes préférés de Théodore Roosevelt. Il a été chanté à ses funérailles. Qu'est-ce que c'est que cet hymne, Georges Eliache? How Firm Foundation?
oui. C'est un hymne à la gloire, évidemment, de la créativité américaine, de l'exceptionnalisme américain, de cette destinée manifeste qui va entourer les États-Unis, mais dans le bon sens, si vous voulez, hein, parce qu'encore une fois, il n'a jamais eu l'idée d'enrichissement personnel ou de gloriole, etc. C'était vraiment un homme qui était très, très, très fidèle à ses convictions, à ses valeurs, et au passé d'Amérique, en fin de compte. Et donc le rappel aux fondations américaines est tout à fait évident de sa part.
Alors nous écoutons ce message de la radio suivi de How Firm a Foundation.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
What more can you?
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après avoir écouté cet hymne magnifique à How Firm a Foundation, qui a donc été joué lors des funérailles de Theodore Roosevelt, je précise à nouveau que nous avons le plaisir de recevoir Georges Ayache, diplomate, historien, pour la publication de ce livre passionnant aux éditions Perrin, consacré à cette dynastie américaine, celle des Roosevelt, avec bien sûr de héros, de personnages particuliers qui ressortent de cette dynastie, qui sont Théodore et Franklin. Nous évoquerons le personnage de Franklin et de son histoire, bien entendu, et de sa famille lors d'une prochaine émission. Et maintenant, nous parlons en effet de Théodore Roosevelt. Nous l'avons laissé au temps de sa jeunesse. Il a terminé ses études de droit, ça ne lui plaît pas, c'est l'histoire qu'il aime, il a écrit ce livre, hein, c'est l'histoire de la marine, la guerre navale hein, sous Napoléon. Eh bien, je propose que nous reprenions le cours de cette histoire. Nous allons évoquer, bien sûr, son mariage et la manière dont il a été amené à rentrer en politique. Georges Ayache, je vous propose que nous vous écoutions raconter la suite. Alors avant, je vous propose deux messages d'auditeurs. Un auditeur qui nous demande si Thomas Jefferson et Jefferson Davis, qui ont été l'un président des États-Unis, bien sûr, et l'autre de la Confédération sudiste, qui sont de la même famille.
Non, dans un cas, Thomas Jefferson était Jefferson, c'est son patronyme, et Jefferson Davis, Jefferson, c'est son prénom.
C'est prénom qui est au commun, ce n'est pas le nom de famille. Hein,
ouais, donc, non, oui, non, non, ce ne sont pas deux Jefferson. Mmh. Mais je voulais revenir sur l'hymne qui a été joué, magnifique d'ailleurs, au moment de la mort de Théodore. Ça rappelle la personnalité de Théodore. Cet air est fait pour lui. La stature, la personnalité, etc. Et ça me rappelle une anecdote qui s'est passée au moment de ses obsèques, justement. Et il y a un officier de police, un commissaire de police, qui est venu voir sa sœur, Corinne, et qui était en larmes, hein, le commissaire en question. Il dit, vous savez, ce n'est pas que seulement c'était un grand homme, mais il y avait tellement de plaisir à être commandé par lui. Vous voyez un peu le chef que c'était, et la trace qu'il pouvait laisser auprès de ses contemporains. Oui. Et donc, c'est ça, Theodore Roosevelt. C'était l'image même du chef.
On comprend.
Peu de présidents seront incarnés comme lui, d'ailleurs. Peut-être Kennedy, s'il avait vécu un deuxième mandat, aurait-il pu, peut-être, parce qu'il avait pris de la stature après l'affaire de Cuba en 62. Mais autrement, le charisme de l'homme était énorme.
On va voir, on est dans quelles circonstances ce charisme s'est particulièrement révélé, ce qui va le conduire d'ailleurs être élu président. Oui. Nous avons un message d'auditeur, je vous le lis. Fait référence à Theodore Roosevelt, écrit-il, se serait rappelé les écrits de l'amiral Alfred Mahan, son principal conseiller qui a défini dès 1896, avant même la guerre contre l'Espagne, la stratégie d'isolement de la Chine et de la Russie par la constitution de la force navale américaine pour le contrôle total des mers et des échanges mondiaux.
Votre auditeur a tout à fait raison.
Oui.
Mahan était le grand inspirateur de Theodore Roosevelt. Ça a été le premier grand théoricien américain, en tout cas, à parler de la suprématie maritime pour une grande puissance. Hein. Et donc, il va être très impressionné par ces thèses-là, non seulement sur la nécessité de constituer une véritable force nationale navale, mais également sur les ambitions de l'Amérique, qui devait désormais ne plus seulement réfléchir en termes de relations avec la vieille Europe, avec le vieux continent, mais ouvrir de nouveaux horizons, donc la Chine. Et donc, Theodore Roosevelt va être le premier président, pratiquement, à vraiment avoir une vision de l'avenir de la Chine. Je parlais à l'instant de la base de Pearl Harbor qu'il va créer, mais également toutes les relations avec la Chine, avec le Japon et l'Extrême-Orient vont être dans la vision de Roosevelt, qui pourtant, de par sa culture, de par sa filiation, était un Européen. Et donc, quand va se déclencher la Première Guerre mondiale, il va pousser immédiatement pour que l'Amérique entre en guerre, dès 1914. Alors, on sait que l'Amérique va dans 3 ans, à son grand désespoir d'ailleurs. À chaque fois qu'il voudra voir le nouveau président Wilson pour faire rentrer l'Amérique en guerre, il va se heurter à un mur. Donc, c'était un Européen convaincu, si on peut dire, pour un président américain, mais également sa vision de la Chine. C'est pourquoi il avait une vision mondiale. C'était un homme qui avait une vision politique qui était énorme par rapport à tous les politiciens de son temps qui avaient une vision étriquée. Il faut bien le reconnaître. La classe politique américaine n'est pas que des lumières.
C'est le premier président, enfin, nous allons bien sûr voir sa présidence, mais c'est le premier homme politique américain qui ait ainsi une telle compréhension des enjeux stratégiques.
Ah oui. Oh
Il
oui,
est le
tout à fait.
premier. Qui...
Tout à fait. Le premier
C'est,
président à
oui.
avoir une vision des enjeux stratégiques et le premier président à avoir un sens aussi de la communication, hein,
Oui, nous
et
allons en
de
parler, en effet,
l'étiquette.
vous le développez beaucoup, cela, dans votre livre, hein, les
Ça,
Roosevelt, une dynastie
il était
américaine.
très très
Oui.
fervent d'articles de presse. Ça, il savait faire. Hein,
Oui.
il n'était pas né de la dernière pluie. Il savait faire sa propre publicité
Oui,
là-dessus. Hein.
nous allons en
Donc,
parler, en effet, c'est un...
très moderne. Il était très moderne dans
C'est
sa vision des
exactement,
choses.
oui.
Hein.
Mais j'avais une question
Ça...
à vous poser sur la puissance américaine, le rôle que Theodore Roosevelt a joué dans son développement, et puis ça nous aussi relie avec la situation actuelle et cette puissance aussi américaine dont on voit effectivement l'application à travers toutes ces opérations qui sont lancées par Trump. Vous expliquez que Theodore Roosevelt s'est intéressé très tôt à la marine. Puisqu'il a écrit cet ouvrage, j'ai pu revoir
Oui,
dans le développement de sa
oui.
vie politique, effectivement, très vite, il va devenir secrétaire adjoint à la marine, etc. Et il aura un rôle, effectivement, très important dans l'édification de la force navale. Vous évoquiez aussi le rôle de son conseiller, l'amiral Mahan. La puissance américaine, c'est d'abord, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, la puissance de sa
Ah
marine,
oui.
elle a toujours eu. Entre autres, à partir de Roosevelt, une marine puissante. Parce que je vous pose cette question, parce que lorsque les États-Unis, en 1917, rentrent en guerre contre, donc en 1916-1917, contre l'Allemagne, il n'y a pas vraiment d'armée de terre américaine. Et c'est la France qui va vraiment former les états-majors, etc., pour qu'on arrive à une armée américaine qui, en 17, n'est pas capable de se battre en corps d'armée, dans des grandes offensives. Ça va venir progressivement. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a encore une armée de terre américaine. Mais ce que vous nous expliquez, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une marine de guerre américaine. Et est-ce que ça, c'est une... Oui?
Oui, allez-y.
Non, non, c'était ma question. Est-ce que la puissance américaine, c'est avant tout la puissance de sa marine?
Absolument, absolument. Ils n'ont pas besoin de l'armée de terre. Hein. De toute façon, c'est quelque chose, à part
Oui.
des corps expéditionnaires pendant longtemps. Ils ont eu la guerre de sécession, ils ont renouvelé les cadres, etc. Mais c'est le minimum, minimum. Hein.
Oui.
En revanche, l'Amérique est une île avec deux façades énormes, Atlantique et Pacifique. Et là, il y a besoin de projection et la marine est une force de projection incomparable. Voilà pourquoi après, l'aviation va jouer son rôle. Mais jusque-là, la marine, et même au-delà de l'invention de l'aviation, la marine continuera toujours à avoir un rôle. Regardez à l'heure actuelle, hein,
Ah oui.
les deux porte-avions, hein,
Oui.
c'est la force de projection. La marine est cruciale, a toujours été cruciale pour les États-Unis. Et pour toutes les grandes puissances, du reste, hein, qu'elles soient insulaires comme la Grande-Bretagne ou continentales comme la France. La France a toujours veillé à ce que sa marine soit à la hauteur, d'autant plus qu'il y a deux façades aussi côté français, Méditerranée et puis Atlantique.
Alors, je vous propose de poursuivre hein, la carrière du jeune Theodore Roosevelt. Il a fini ses études et il va se marier.
Oui. Et là, c'est une histoire tragique, une histoire d'amour, là aussi, comme son père d'ailleurs, il est terriblement amoureux de sa femme. Il va avoir. En 1880, je pense, oui. Il va avoir en 1884 un enfant qui va être Alice. Et la mère meurt 2 jours après des suites de l'accouchement. Et donc pour lui, ça va être une catastrophe. Le ciel s'écroule sur sa tête. Hein. C'est son univers, c'est comme on peut l'imaginer d'ailleurs. Hein. C'est rien de plus terrible. Et donc, il va faire hormis passer la première phase de désespoir intégral, il va pas s'occuper de sa fille, qu'il va laisser à sa sœur Bami, justement, qui va l'élever, et plutôt bien élevée d'ailleurs. Et lui, passer quelques mois à New York à faire de la politique, mais sans y penser machinalement, tellement il est accablé par le chagrin, il va tenter une expérience qui va essayer de lui laver la tête en quelque sorte, de laver l'esprit en tout cas, et essayer de le régénérer. C'est qu'il va aller dans des endroits, dans une province qu'on appelle les Badlands, qui est complètement perdue, maudite, où rien ne pousse vraiment, etc. Et il va acheter une ferme là-bas. Et il va se faire fermier et jouer les cow-boys en quelque sorte, pendant 2, 3 ans. Il va mener cette vie-là. Et il ne le sait pas encore, il en aura conscience par la suite, mais cette expérience va le régénérer et va lui forger le caractère encore plus que ce qu'il avait avant. Donc il va revenir encore plus fort qu'il n'était parti.
Oui,
Donc il va.
vous le citez, Georges Hayash, hein, dans votre livre, Les Roosevelt, une dynastie américaine, nous disions Perrin. Vous dites que ce séjour a été crucial pour sa maturation. Vous le
Oui.
citez, je n'aurais jamais pu devenir président sans mes expériences dans le Dakota du Nord. Et pourtant, ça
Probablement.
n'a pas été un fermier extraordinaire, parce
Ah non.
qu'il
Ah
n'avait pas, il
non,
n'avait
non,
pas l'expérience.
non. Non, non, non. Il a joué à se faire plaisir un peu à un fermier.
Oui.
Bon, il parlait aux gens du coin qui l'acceptaient avec un petit sourire en coin. Mais bon, il a fait son expérience qu'il fallait faire. C'était pas évident, hein, pour un homme de la ville, un homme qui est cultivé, etc. Aller dans la nature la plus sauvage qui soit, avec des animaux qu'il ne sait pas maîtriser au départ, ça n'est pas donné. Hein. Donc c'est un pari qui se faisait lui-même, qu'il a fini par gagner. Et il est ressorti transformé de tout ça. Il est revenu à New York après et récupère sa fille. Et il se remarie. Il se remarie avec sa copine d'enfance d'ailleurs. On
Edith,
croyait
hein.
qu'ils allaient se marier quand ils étaient jeunes, et puis non, il s'est marié avec celle pour qui il a eu le coup de foudre, Alice, elle s'appelait Alice également.
Oui.
Et donc il se marie avec cette femme qui s'appelle Edith, et qui va se révéler être la femme de sa vie, hein, ré réellement. Parce qu'elle va être complètement à son service, elle va complètement coller à sa personnalité. Elle-même a une forte personnalité d'ailleurs, hein, et elle-même est une personne intelligente et cultivée au demeurant. Donc c'est pas du tout un rapport de domination classique, hein, c'est son alter ego en quelque sorte. D'ailleurs, il y a des intellectuels à cette époque qui vantent ses qualités littéraires et son esprit qui est très fin. Mais elle va avoir un but dans sa vie, c'est son mari. Et elle va tout sacrifier à son mari, et quand son mari va mourir, elle va être la gardienne du temple en quelque sorte. Hein. C'est elle qui va faire la légende de Théodore, c'est elle qui va l'écrire et l'entretenir. Hein. C'est elle qui va jouer vraiment un rôle capital. Elle va lui donner cinq enfants au passage, donc qui vont devenir les demi-frères et sœurs d'Alice. Et donc c'est là où il va y avoir quelques tiraillements de la part d'Alice, qui va se sentir un peu délaissée, alors que lorsqu'elle vivait chez sa tante, elle était la princesse, hein, en quelque sorte. Là, elle va se sentir un peu délaissée, et c'est là où elle va devenir insupportable à l'adolescence. Elle va faire les 400 coups pour se montrer, pour montrer à son père qu'elle existe, en quelque sorte. Et
Donc,
son père
oui.
a toutes les qualités, sauf de savoir identifier le malaise de sa fille. Ça, il saura jamais le voir.
C'est un mariage, il faut le préciser, ce mariage avec Edith, c'est un mariage réussi. C'est
Ah oui, ce mariage
un bon
réussi.
couple, parce que dans l'histoire de cette dynastie, que ce soit à côté Hyde Park ou Oyster Bay, on ne peut pas dire que les mariages aient été exemplaires, hein,
Non, ils n'ont pas été exemplaires ni
de belles
heureux d'ailleurs.
réussites. Là, ce n'est pas le cas, Théodore. Je ne sais pas si c'est
Ah
lié,
non, non, non.
si c'est la chance ou si sa personnalité.
C'est sa personnalité, hein. Il a une rectitude telle que les écarts privés, c'est pas son truc. C'est pas son
Oui.
truc, c'est pas sa propension, c'est pas. Il n'est pas dans cet état d'esprit. Hein, il est vraiment. Et il applique finalement à sa vie privée la rigueur qu'il a dans la vie publique, hein, tout
Oui.
simplement. Il n'y a pas
C'est
de distinction.
cette rectitude qui fait qu'il lutte contre la corruption. La lutte
Ah
contre la corruption,
oui.
c'est un de ses chevaux de bataille. Hein.
Absolument. Et ça, il hérite ça de son père aussi, hein. Son père qui a été mis à l'écart par l'establishment républicain parce qu'il était trop droit, en quelque sorte. Il n'acceptait pas certaines compromissions et donc il s'est retrouvé marginalisé. Et son fils va essayer d'avoir une revanche par rapport à l'ostracisme dont a été victime son père, hein, sur ce plan-là, sur le plan politique, s'entend. Hein. Et donc il va avoir ce rôle-là en tant que gouverneur de New York, de chef de la police également. Hein, c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup de gens qui vont l'aimer. Il va mettre de l'ordre dans la police qui était corrompue aux trois quarts. Donc il va introduire de la rigueur là aussi. Il va veiller à ce que les hommes fassent leurs heures de service. Il veillait à ce que les hommes soient bien traités également. Donc il avait un bilan tout à fait remarquable lorsqu'il est devenu secrétaire à la marine. Parce que forcément, un homme de cette qualité-là, ça ne peut pas rester sur des postes subalternes. Donc il a été très vite pour entrer dans le gouvernement, il était secrétaire à la marine. Et là, il a compris que ceux qui étaient ses supérieurs, donc le secrétaire à la marine, puisqu'il n'était qu'adjoint à l'époque, n'avait aucune valeur, n'avait aucune connaissance de ce qu'était la marine. Et donc c'est lui qui va essayer d'avoir l'ascendant sur son ministre, en quelque sorte. Et c'est là où on arrive sur l'affaire de Cuba en
Oui.
1898. C'était.
Pardonnez-moi, Georges
Oui.
Ayache. Donc vous nous décrivez un personnage à la fois très, très attachant et de grande envergure, en plus avec une très forte rectitude morale. Ce qui, pour vous, qu'est-ce qui fait dans sa personnalité qu'il va arriver aux plus hautes destinées politiques? Alors il a le goût de la politique, à l'évidence, vous nous l'avez précisé. Mais qu'est-ce qui, chez lui, va faire la différence?
Sa personnalité, justement. C'est pas un intrigant. Hein. Bon, c'est pas un enfant de cœur non plus. Faut pas, on
Oui.
deviendra pas, on ne devient pas président comme ça par hasard, si vous voulez, hein,
Oui.
sur sa seule personnalité. Faut pas être naïf. Mais bon, c'est ça qui impressionne beaucoup. Mais il recherche pas forcément le pouvoir. Il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on l'appelle. Il est convaincu de sa destinée personnelle, probablement. Et donc, il n'est pas inquiet là-dessus. Mais il sait saisir les occasions. D'où Cuba, effectivement. Là, il va sentir que il a un coup à jouer. C'est-à-dire que il peut se faire remarquer sur le plan national et par l'opinion publique et non pas par le sérail politique seulement.
Donc,
Et donc,
pardonnez-moi, je
oui.
vous interromps, mais il est ambitieux.
Il est ambitieux, forcément. Un homme de cette valeur-là ne peut être qu'ambition
Oui.
politique.
Alors, vous évoquez Cuba qui va être en effet un révélateur, hein, qui va atteindre, comme vous l'écrivez, une célébrité nationale en une seule journée de combat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cuba, cette guerre de Cuba pour laquelle il se porte volontaire? Pouvez-vous, on ne connaît pas très bien cette histoire-là
Alors, il y a une
en
campagne, il y a
France.
une tour.
Pouvez-vous nous en parler?
Alors, il y a le vieux front anticolonial des Américains. Ça, c'est depuis le père fondateur, ça les poursuit. Donc, c'est un thème qui est très porteur déjà. Or, Cuba est une colonie espagnole. Et ça, à quelques encablures des États-Unis, ça passe de plus en plus mal. Donc, il y a des campagnes de presse déjà qui critiquent les Espagnols, qui critiquent la manière dont ils dominent les Cubains, la manière dont ils maltraitent l'économie locale, etc., etc. Et puis, il y a un incident qui a été créé de toutes pièces, probablement, on le saura qu'après. C'est un navire de guerre américain qui prend feu, qui est victime d'une explosion dans le port de La Havane. Et donc, on soupçonne, enfin, il est facile pour la presse de soupçonner les Espagnols. Et donc, il va y avoir une campagne anti-espagnole qui va se développer, à laquelle va s'associer Theodore Roosevelt. Et Theodore Roosevelt va pratiquement court-circuiter son patron, le secrétaire à la marine, pour influencer le président des États-Unis, McKinley, pour s'engager dans une guerre contre Cuba. À la suite de cet incident qui est gravissime, puisque un navire américain coulait dans le port, c'est quand même une sorte de casus belli. Et donc c'est lui qui va prendre l'initiative de pousser l'Amérique dans la guerre. La première guerre extérieure que connaissent les Américains. Hein, jusque-là, il n'y avait que la guerre civile, mais pas de guerre extérieure. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour rejoindre le geste à la parole, Theodore Roosevelt abandonne ses fonctions de secrétaire à la marine et s'engage dans l'armée. Et donc, il devient colonel, lieutenant-colonel, et à la tête d'une petite équipe qu'on appelle les durs à cuire, les Rough Riders, il va s'engager à Cuba et il va jouer, comme il a joué les cow-boys, là, il va jouer le chef de guerre.
C'est-à-dire que,
Et donc,
pardonnez-moi, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne.
oui, il déclare la
Et
guerre à l'Espagne.
alors,
Voilà.
ils débarquent, comment montent-ils leur
Alors,
opération?
il débarque en effet, et il y a une bagarre qui va se dérouler au large de la Havane, sur une colline de San Juan. Et donc, lui va se singulariser pour monter à l'assaut de la colline avec son chapeau au vent, etc. Et naturellement, les journalistes derrière, hein, pour photographier la scène. Il avait même son photographe attitré, hein,
Ah
ce qui scandalisait les officiers américains, les officiers de carrière, mais ils s'en fichaient complètement. Ils savaient très bien l'exploitation politique qu'il allait faire de cette opération. Et ça n'a pas manqué. Et il a du jour au lendemain, la réputation était nationale. Hein, la presse en a parlé de tous les côtés, dans tous les coins de l'Amérique, et il est devenu une figure nationale. C'est incontestable. Tout le monde connaissait le nom de Roosevelt, et non plus seulement à New York, mais dans tous les États-Unis.
Alors,
Et si bien que.
oui,
Oui?
Georges Hayache, on comprend à travers vos explications, en effet, pourquoi Théodore est devenu aussi célèbre, aussi fameux aux États-Unis, et ça va le porter effectivement au pouvoir suprême. Mais juste un mot, si vous voulez bien, sur cette guerre américano-espagnole à Cuba. Combien de temps dure-t-elle? Comment se termine-t-elle? Quel est le statut de Cuba après la défaite des Espagnols?
Ça se termine assez rapidement en quelques semaines. Hein,
Ah oui.
ça va pas durer longtemps. Les Espagnols vont comprendre qu'effectivement, bon, leur temps est passé, ils vont se retirer sagement. Et Cuba va avoir un statut de république indépendante, mais sous protectorat implicite des États-Unis dès cette époque.
Oui.
Dès cette époque. Donc, et ça va être sous contrôle. Donc, et l'autre Roosevelt qui viendra au pouvoir par la suite ne fera rien pour démentir ce statut. Donc ça restera toujours sous contrôle américain.
Jusqu'à
C'est
la
à
chute de
partir de là
Batista.
jusqu'à la chute de Batista, en effet.
Bon. Et alors, il rentre. Alors, cette
Alors
guerre
il
dure
rentre aux
quelques.
États-Unis,
Oui?
et là il y a une sorte de coup du sort et qui joue en sa faveur, c'est que le vice-président des États-Unis, Hobart, meurt subitement, très jeune d'ailleurs, hein, et donc de manière inattendue. Et donc les gens, pour se débarrasser, les caciques du Parti républicain, pour se débarrasser un peu de Roosevelt, poussent pour qu'il soit nommé vice-président.
C'est une
Alors à
manière de se
l'époque,
débarrasser des gens, d'être nommé
ah,
vice-président?
la vice-présidente a toujours été de votre garage aux États-Unis, hein, ça c'est clair. On
Bon.
ne nomme un vice-président que pour des raisons électorales, mais jamais de grosses pointures, sauf exception, et ça c'est une, mais à la vice-présidence, on met des gens falots, incolores, inodores. Hein. D'ailleurs, un vice-président, vous savez, le seul intérêt de la vice-présidence, c'est de lire les journaux le matin et de s'enquérir de la santé du président. Voilà. Donc, c'est pas. Donc, il est nommé vice-président, et effectivement, il s'ennuie ferme. Quand McKinley est réélu, il s'ennuie ferme, et il voit mal passer 4 ans comme ça dans le président. Le second coup du sort, qui joue en sa faveur, le président McKinley est assassiné. Après 9 mois de renouvellement de son mandat.
Et nous sommes là
Donc,
le 13 septembre 1900, pour bien préciser
voilà.
les étapes
Et
de la
donc.
vie de Theodore Roosevelt.
Et donc, les 3 ans qui suivent, il les assume en tant que président, avant de se faire réélire, de se faire élire en tant que président pour la première fois en 1904. Donc, il aura passé 7 ans à la présidence, mais la première fois, ça a été de manière totalement fortuite. Mais là, assez rapidement, autant il a rangé son frein en tant que vice-président, là, en tant que président, il va prendre ses marques immédiatement. Et à comprendre que c'est un poste qui est fait pour lui et il donne sa pleine mesure dès lors.
Donc il va être président des États-Unis de 1900 à 1908.
Absolument.
Hein,
Absolument.
une 3 ans de présidence suite à la mort de McKinley, 1900, 1903, 4. Et,
Quatre.
oui, et après, réélu,
Oui.
triomphalement d'ailleurs, 56% des voix,
Ah oui, ah oui,
en
parce que
1904.
effectivement, c'est
Jusqu'à. Oui. Alors je vous
un homme
propose.
tellement connu et populaire, etc., et sa réélection était
Alors, oui.
une formalité.
Alors, Georges Ayache, malheureusement, il ne reste que 2 minutes à passer en votre compagnie, mais vous allez revenir, donc nous pourrons bien entendu étudier la fin de la présidence, hein, son œuvre à la présidence notamment, et puis la fin de la vie de Theodore Roosevelt, avant en effet de passer à la grande figure suivante de cette dynastie Roosevelt, telle que vous la racontez dans votre livre. Je rappelle le titre, Les Roosevelt, une dynastie américaine, que vous publiez chez Perrin. Alors évidemment, le premier, alors il y a de fortes personnalités, vous les avez racontées, mais celle qui ressort, qui domine bien entendu, c'est celle de Theodore Roosevelt. Je vous propose de terminer par un aspect qui est très intéressant, qui est peu connu en effet, vous l'avez un peu évoqué dans notre discussion, c'est que Theodore Roosevelt est le premier chef politique à véritablement comprendre le pouvoir de la presse. Alors ce qui est amusant, c'est que Mark Twain disait que Theodore Roosevelt était le Tom Sawyer du monde politique du
Ah
XXe
oui.
siècle, toujours en train de se mettre en valeur.
Ah oui, ça, il était très critique à l'égard de... Il était anti-Roosevelt,
Ah oui,
effectivement.
visiblement, on ne devait
Mais
pas le porter dans son cœur.
ah, non, il le portait pas dans son cœur. Mais c'est vrai qu'il va être le créateur d'une salle de presse à la Maison-Blanche, Roosevelt. Ça n'existait pas avant lui. Donc il avait les journalistes à sa disposition matin et soir, hein. Et ce qui fait qu'il avait toujours la primeur des nouvelles, de la presse écrite, etc.
Oui. Georges Ayache, c'est peut-être son point commun avec Trump.
Oui,
Cet aspect-là,
mais
non?
aussi un peu commun avec l'autre Roosevelt, parce que
Oui.
lui va s'appuyer sur le pouvoir de la presse écrite, Franklin sur la radio.
Oui. Georges Ayache, nous devons interrompre notre conversation malheureusement,
Voilà.
mais nous vous retrouvons bientôt, hein, pour la suite. Merci beaucoup d'être venu
Avec plaisir.
en
Merci à
direct
vous.
ce soir parler de cette dynastie des Roosevelt. Réparez-vous bien aussi, hein, tous nos voeux de rapide rétablissement. Merci à
Oui.
Stéphane et à sa magnifique
Merci à
pause
vous.
musicale à la technique. Merci à Laurent qui a pris vos messages. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 1er mars 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.